Alors, comment faire la transition avec l'intervention suivante? Je pense à un monsieur que j'ai rencontré dans un accueil de jour pour son domicile fixe, un monsieur d'origine afghane qui était journaliste dans son pays, qui parlait pas français et avec lequel j'ai communiqué en anglais. Et voilà, qui se retrouvait dans ce lieu puisqu'il était à la rue, hein, demandeur d'asile. Et voilà, qu'est-ce qui reste quand on a dû tout quitter, son métier, son pays, sa famille, voilà, toutes les attaches qui peuvent être aussi des assises pour penser l'identité. Donc, je vais laisser la parole à Julio Guillén, qui est psychologue clinicien au CMP Franco Basaglia, et également professeur en psychologie clinique et en psychopathologie à l'Université de la Cato de Lille. Voilà, je lui laisse la parole pour nous présenter son travail.
Bien. Déjà, je voulais vous remercier de m'accueillir et de m'avoir invité, d'avoir accepté ce que j'avais à vous dire. Déjà, si je crois à ma montre, j'aurai moins de 2 minutes pour parler, parce que je dois finir à 16h20. Donc, ça va être... je vous aurai des fragments, une coupure, disons, c'est pas la frustration, ni la privation, la castration plutôt, mais on fait avec. Donc, je vais essayer de lire les propos. Il y avait toute une introduction de théorie que je vais un peu passer, parce que je voulais venir à... un petit récit d'une situation clinique que j'ai rencontrée au CMP il n'y a pas longtemps. Je voulais faire part de cette réflexion sur l'identité. Donc, je vais aller essayer de ne pas trop m'étendre et donc dire simplement la question de base qu'on se pose dans des journées comme celle-ci, c'est qu'est-ce qu'est l'identité ? Bien, si on avait la réponse, on ne serait pas tous là. Mais en tout cas, disons, il me semble que il n'est pas inutile de rappeler que la question de l'identité, comme d'ailleurs toute autre question pour un psychologue clinicien, ne peut trouver un sens qu'à prendre comme point de départ la parole de quelqu'un qui s'adresse à nous dans le cadre d'une séance. Donc je passe un certain nombre de choses, mais je dirais qu'on pourrait penser que l'identité est ce qui ne change pas. Ce qui se maintient chez quelqu'un à travers le temps. On pourrait assimiler l'identité à un noyau fixe, disons, qui fait qu'au-delà des apparences, de changements, on continue à être toujours le même. Le même que l'enfant qu'on a été, que l'adolescent qu'on a été, le même qu'on était avant.
Trop fort.
Ouais, maintenant, c'est soit je me décale, soit je ne peux pas lire. Il faut des choix. Enfin, donc, maintenant, ça va mieux. Vos oreilles sont bien. Bien. Donc, je disais, on peut penser que l'identité est quelque chose qui est de l'ordre de ce qui ne change pas et qui ne change pas quand on, disons, on est le même que l'enfant qu'on a été, l'adolescent qu'on a été. On est les mêmes, bien sûr, avec des nuances, mais quand même, on se reconnaît. Et à ce moment-là, disons qu'après être devenu parent, et je ne parle pas de ce qui a été évoqué, transition de genre, etc. Comment on se reconnaît comme le même ? Donc, pour moi, il y a deux notions qui me permettent de penser ça. Effectivement, je ne vais pas venir sur mon histoire. Ça, il sera question, parce que quand on parle d'un patient, on ne peut pas ne pas parler de soi. Donc, au moins d'une façon indirecte. Mais, disons, il y a deux notions. La première, c'est la notion de continuité. Et la deuxième, la notion d'invariance. Ce sont deux notions qu'on peut rapprocher d'une vision mathématique même. Disons, dans la continuité, il y a l'idée de quelque chose qui n'est pas coupé, qui n'est pas segmenté. Je ne veux pas rappeler, parce que je n'aurai pas le temps, mais c'est intéressant. Se rappeler Bergson, disons, par rapport à la question de la durée, et que justement met en question cette, disons, tendance à découper le temps. Le temps se vit comme quelque chose de continu. Donc, par rapport à la deuxième notion, la notion d'invariance, on peut se référer au concept, justement, mathématique des transformations, et l'invariant n'a pas de sens si on ne pense pas à la transformation qui a lieu. quelque chose est invariant par rapport à une transformation. Je pourrais donner des exemples, mais il faut penser que quelque chose qui reste symétrique face à une rotation, il faut qu'il y ait une rotation. Donc il faut penser que quand on pense à un variant, on pense à une transformation. Par rapport à ces deux notions que je viens d'évoquer, les défaillances de l'identité, si on pense à la continuité et à l'invariance, peuvent se situer soit par rapport à la rupture de cette continuité, soit par la disparition suite à une transformation d'un invariant. Quelque chose a disparu qui nous permettait de nous reconnaître. Mais je m'empresse d'ajouter que ces invariants sont des invariants pour quelqu'un. Ils ne sont pas des traits objectifs, ils ne sont pas des preuves ou des mesures qu'on peut prendre. Il y a des choses, disons, qu'on pourrait prendre, mais témoignent de ça des amnésies qu'on décrit dans des états dissociatifs. Je rappelle, disons, la vieille psychiatrie, on va dire, les syndromes de Capgras, de Sosie, disons, l'impossibilité de reconnaître, disons, quelqu'un, dans le sens de dire qu'il a été substitué, mais aussi, un autre syndrome qui s'appelait le syndrome de Fregoli, mais on pourrait, je ne veux pas rester sur ça, mais on pourrait vraiment, même mathématiquement, voir quelles sont les fonctions qui ne sont pas respectées. Donc, je voudrais aussi rappeler que s'il s'agit de quelqu'un, et on parle en psychanalyse en particulier du sujet, on l'a rappelé ce matin, il n'y a pas de sujet sans lien à l'autre. Et donc pour cette raison, je voudrais faire remarquer quelque chose qui paraît évident, mais je voudrais le remarquer, que la question de l'identité, c'est une question qui va se poser en mots. On va la poser, pour ça on fait appel à l'autre, la figure du grand autre, le trésor du signifiant, comme on veut l'appeler, d'un point de vue lacanien. Donc, cette question de l'identité, on pourrait l'entendre plutôt comme une demande. Donc, dis-moi que je suis toujours le même. Mais là, ça change les choses. Chercher que dans le témoignage de quelqu'un d'autre, on puisse trouver le même. Petite parenthèse, vous le connaissez certainement, mais il faudrait lire, plutôt que voir le film, le roman La moustache d'Emmanuel Carrère. C'est, disons, comment on se reconnaît, disons, quand quelqu'un ne nous renvoie pas de cette reconnaissance. Donc je dirais que il y a un paradoxe, parce que finalement on doit passer par l'autre pour se dire qui suis-je, et ce paradoxe, que je ne vais pas développer encore une fois, mais c'est le paradoxe de l'aliénation que Lacan reprend dans les séminaires, les quatre concepts fondamentaux, disons, l'aliénation à l'autre, pas dans le sens de l'aliénation, l'esclavage, etc., c'est on est aliéné au signifiant de l'autre, et ça c'est salutaire, s'il y a une opération de séparation qui se fait après. Donc, je reviens tout de suite, disons, pour signaler, avant de rentrer dans le cas, que l'identité, loin d'être une problématique d'autoconnaissance, d'autodécouverte de soi-même, nécessite logiquement, je pèse les mots, de passer par l'autre. Donc la phrase qui intitule la communication, cette phrase qui a été prononcée par le patient que j'appellerai Mizir, qui dit « Here, there, I am nobody and I am nowhere », c'est une phrase qu'il a dite. Il exprime de manière criante, je crois, le paradoxe propre à l'identité, qui, tout en nécessitant de la continuité dont je parlais, du mouvement, l'oublie parfois, disons, en faveur d'une figure fixe qui fait office d'invariant. On peut se trouver pétrifié dans une figure, disons, ou on peut se trouver dans un mouvement des organisateurs. Du mouvement pour Mizir, il y en a dans la réalité, je dirais. Il est un homme dans la cinquantaine qui a dû abandonner son pays dans le Moyen-Orient suite à des menaces qui pesaient sur lui. Autant à cause de ses croyances qu'à cause de son refus d'obtempérer devant une police corrompue qui, au lieu de le protéger, avait parti lié avec ses agresseurs. Au fil des années, il avait vu mourir son père dans un attentat et son frère d'un coup de feu. Depuis son départ, Mizir a séjourné dans différents pays d'Europe, toujours avec un statut précaire. Le dernier pays qu'il avait accueilli, ayant durci les lois d'expatriation, il a décidé de venir en France, pays qu'il disait, l'avait bien accueilli et qu'il aimait surtout par ses paysages. En arrivant, il a fait une demande de statut de réfugié qui, au moment de la consultation, traînait depuis plus d'un an dans les dédales de l'administration. Ce qui motive sa venue au CMP est un état d'angoisse qui s'est accentué, ayant comme symptômes principaux un sommeil entrecoupé et insuffisant, le besoin compulsif de s'enfermer à clé. Il vivait dans une colocation, mais il devait fermer sa porte à clé. Et un sentiment d'insécurité accru avec l'impression parfois qu'il était suivi. Comme nous l'avons signalé, Mizir a un bon niveau d'anglais qui lui permet d'exprimer ses idées avec un certain degré de subtilité. Il a dit au psychiatre, il a fait une consultation chez les psychiatres, disons, et il lui a dit qu'il avait besoin de parler avec quelqu'un pour comprendre et faire quelque chose de la détresse qui s'était intensifiée au cours des derniers mois. C'est comme ça qu'il arrive à la consultation avec moi et nous parlerons un anglais qui n'est pas ma langue maternelle, comme les Français, vous l'avez entendu. Mais surtout, ce n'est pas sa langue maternelle à lui. Toute la question de qu'est-ce qui me prend, moi, de proposer cet espace, on pourrait en discuter. Mais certainement, ce n'est pas étrangère au fait que je sois étranger. Donc, sa situation actuelle est une situation complètement instable. Il n'a pas de travail, il est accueilli dans un foyer. Il ne parle pas le français encore et ne peut pas s'inscrire dans des cours de langue. Il s'est rapproché d'une association, mais il dit « l'association m'apprend des mots pour échanger avec l'administration, ça ne me sert pas pour faire des liens ». Disons, c'est utile, ben, il dit, mais en tout cas, disons, Mizir a quelques relations de camaraderie, mais il n'a pas de vrais amis, parce que la barrière de la langue, il dit, l'en empêche. Lui empêche d'aller vers les autres. Et il dit, je le cite, disons, c'est pourtant ma tendance naturelle, il dit. Mais je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas les moyens. Donc, au cours des séances, il va raconter son départ précipité de son pays. Un jour, il a été enlevé par ceux qui faisaient la loi dans son quartier. Ils ont mis un sac sur sa tête, ils l'ont conduit dans un champ en dehors de la ville, ils l'ont frappé, ils l'ont humilié, ils l'ont dit que s'il ne payait pas sa part pour avoir son magasin au centre-ville, la prochaine fois, il allait les tuer. Ils l'ont ramené à la ville où ils l'ont abandonné, mais Mizir, très important, était décidé, coûte que coûte, à ne pas céder. Seulement, je crois que c'est un moment de basculement, là, disons, seulement quand sa mère a su ce qui lui était arrivé, elle lui a dit en pleurant qu'il devait partir, que s'il les tuait, elle mourrait. Et c'est cette demande, cette supplication, je dirais, de sa mère, qu'il a décidé à partir. Donc les scènes de la séquestration, disons, il ne peut pas l'oublier, lui revient parfois en rêve, et je dirais, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qu'il y a tous les éléments pour un diagnostic de stress post-traumatique, trouble de stress post-traumatique, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait d'un diagnostic comme ça, finalement? On pourrait, je ne sais pas, disons, mettre un protocole en place, on pourrait consulter un service spécialisé. Mon pari, c'était d'ouvrir cette question, disons, de ces moments où il a dû décider de partir. Je lui demande alors, dans cette scène de violence, ce qui lui apparaît comme insupportable, insurmontable pour lui. À ma surprise, et c'est vraiment, ça c'est la surprise, la marque du sujet, je veux dire. Il ne revient pas sur le coup, on disait cet après-midi, on parlait qu'il n'y a pas que les coups mais les mots. Disons. Il ne parle pas de coups, de blessures, ni de sa peur, mais sur un moment où ses ravisseurs se mettent à uriner sur lui et ils lui disent « tu n'es rien ». Même pas un chien. Donc, cette phrase, il ne peut pas l'oublier. Il dit, je passe en anglais, mais il le dit en anglais, « Je n'étais plus rien, pas un humain. » Vous entendez, disons, pas plus qu'un chien. Donc, que leur restait-il pour continuer à être quelqu'un? Il avait trouvé, leur faire face, ne pas céder à leurs conditions. C'était sans compter sur la supplication de sa mère, qui non seulement coupe court à cette alternative, mais qui les lance dans son errance. Cette errance géographique, je dirais, il la reproduit dans les rues de Lille, où il marche tête basse, sans savoir où il va, avec une espèce de, il décrit comme ça, un brouillard devant ses yeux qui l'empêche de voir. La seule chose qu'il voudrait, selon ses propres mots, est d'avoir une vie normale, un travail, des amis, rencontrer quelqu'un, peut-être fonder une famille. Donc il existe, comme nous l'avons dit, des conditions pour la fonction identité. Je l'appelle la fonction identité, c'est fonction continuité, invariant, etc. Il y a des conditions, disons, pour qu'elle puisse exister. Continuité, invariance est liée à un lien à l'autre. On pourrait le décliner dans des conditions psychologiques, sociales, même biologiques, la persistance de la mémoire, l'image de soi, le statut civique ou familial, le fonctionnement cortical. Cependant, l'élément essentiel dans la clinique est ce moment, et je pèse les mots, où le « je » vacille dans son lien, au « moi ». Et où la faille structurelle, qui est propre à toute identité, se révèle. Comme on l'affirmait précédemment, les liens à l'autre, et à l'autre majuscule, sont ici décisifs. On cherche, d'une part, quelqu'un qui pourrait témoigner qu'on n'a pas cessé d'être et d'être toujours le même. Mais surtout, on cherche la consistance de l'autre. Comme on la cherche à travers les mots, qui pourrait nous fixer, nous ramener à une forme stable, sans pour autant effacer la condition de sujet désirant. Donc il existe, bon, je vais presque finir, hein. Il existe toujours des points de faille, je dirais, des frémissements qui font surgir ce paradoxe dans l'histoire de chacun de nous, quoique peut-être pas aussi dramatique que celui de Mizir. Il rappelle que la division subjective est structurelle. Il dévoile le leurre d'une identité qui se voudrait sans faille. En analyse, on arrive à ce point de dissolution de l'autre, je dirais, quand on s'approche de l'horizon, et on l'a cité aussi tout à l'heure, de la langue, concept introduit par Lacan, tu l'avais cité, Ariel, disons, ces balbutiements. On s'approche à quelque chose du langage, et vous l'avez dit aussi, disons, à cet au-delà du langage, disons, où les mots ne suffisent plus. Mais ça, c'est quelque chose de structurel. Donc, d'une certaine manière, cette notion, ce concept introduit une zone en deçà, je dirais, de la langue comme espace de signification partagée. Quand quelqu'un parle dans sa langue maternelle, je reviens à cette question qui m'a interrogé, je n'ai pas la réponse, mais disons, on parle en anglais quand même, disons. Quand quelqu'un parle dans sa langue maternelle, il oublie d'habitude les marges nébuleuses de la parole. Le pacte social de la signification par laquelle on se tient dans la langue qui capitonne, qui suture ce qui nous sépare foncièrement de l'autre en postulant que ce que je dis est univoque, et que l'autre comprend. Donc, comme je dis aux étudiants, il y a certains ici, je dis, quand on va chez les boulangers, disons, on dit, donnez-moi une baguette, s'il vous sort, disons, une baguette de chef d'orchestre, bien, je suis pressé, c'est une blague. Mais ils ont cette espèce de brouillard qu'il y a autour de la parole, on l'oublie, et surtout quand on est dans sa langue maternelle, on sait ce qu'on dit, l'autre comprend. Donc, cette question de la langue est toujours particulière. Je fais une distinction entre particulier et singulier, mais on pourrait en parler. Donc, elle est toujours particulière. Elle garde, au-delà de toute convention propre à l'autre, comme trésor de signifiant partagé, la trace unique de l'entrée traumatique dans le langage. Une corporéité, une matérialité, on a aussi utilisé le mot matérialité aujourd'hui, mais une matérialité, une sonorité unique. Certainement la phrase que les ravisseurs ont jetée à la figure de Mizir, qui l'a frappé peut-être plus que le coup, la phrase qui l'a frappé et qu'il m'a communiqué, je mets entre guillemets, en anglais, a été évoquée dans sa langue maternelle. Elle a été dite dans la langue du pays. Sans doute, elle mobilisait tout un réseau culturel propre à sa langue, Mais pas seulement. Elle mettait aussi en branle sa propre histoire, la langue, mais pas seulement. Donc n'oublions pas qu'après sa séquestration, Mizir était décidé à résister. Il ne doutait pas. Il refusait de se laisser dominer ou imposer une loi violente et arbitraire. Seulement, les pleurs et la supplication de sa mère, moi je mets entre parenthèses, quels étaient les mots qu'elle avait utilisés? Quels étaient les grains de sa voix, le ton? Cette supplication face à l'insupportable de sa mort imminente, donc, ont fait qu'il s'est arraché de sa patrie pour devenir un errant. Donc, je dis certainement, le fait de parler dans une langue qui n'est pas ni celle de Mizir ni la mienne soulève de multiples questions, disons, commençant par une identification de base, je dirais. On parlait d'identification aujourd'hui, moi aussi. Mais nous sommes tous les deux des étrangers. Nous sommes tous les deux des étrangers à cette langue dont on était en train de parler, disons, en séance. Nous n'aurons pas les bons mots, ni lui ni moi. Mais, étonnamment, je veux le souligner, c'est aussi le cas quand nos interlocuteurs parlent dans leur langue maternelle. Disons, je dirais, nous sommes tous des étrangers dans nos propres langues. Et quand ces points d'extimité, un autre mot lacanien, c'est pas un gros mot, disons, est touché, aucun secours ne viendra de l'explication ou de la rationalisation. En tout cas, s'il vient, il viendra après coup. Face à cet instant, je dirais, des vacillations ultimes, la présence de l'analyste, je parle de l'analyste dans le sens de dire, bon, peut-être le psychologue clinicien, mais qui se réfère à la psychanalyse, disons, je dirais, la présence de l'analyste s'offre comme un point d'attraction, je dirais, un horizon, l'horizon d'un retour de l'autre et à l'autre. Donc je finis par dire que, sans reculer face à la part de non-sens qui est inhérent à la vie, tisser du sens permet de renouer avec la continuité de son mouvement sans sombrer dans deux extrêmes. Soit celui de la dissolution dans le mouvement perpétuel, soit celui de la pétrification dans l'identité. Merci.